Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Des Jeunes au Théâtre sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Je suis Nour et je serai votre présentatrice aujourd'hui. Et je vous emmène avec moi dans cette émission spéciale réalisée par les élèves de première SCMG au lycée Albert Camus. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM et nous allons parler de la pièce Passeport d'Alexis Michalik, vue au théâtre de l'Avant-Scène à Colombes. Au programme aujourd'hui, nous débuterons par la présentation de la pièce, ensuite nous écouterons une interview sur les codes vestimentaires au théâtre, suivie de témoignages d'élèves de première sur leur interaction avec le public du théâtre. Dans une deuxième partie, une interview sur l'association Singa avec comme invité spécial Emmanuelle Bourges, qui est coordinatrice des programmes d'incubation dans cette association. Puis dans une dernière partie, nous parlerons des démarches administratives des migrants en France, suivie d'un débat sur la perception des migrants en France, et nous finirons par un dialogue fictif sur la pièce entre un père et son fils.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Et tout de suite, c'est l'heure de la première interview. Bienvenue à nos invités, Sandia, Lina, Louane, Neila et Chloé, et vous allez nous présenter la pièce.
Nous avons assisté à la pièce au théâtre de l'Avant-Scène à Colombes le 23 janvier. Le théâtre a 35 ans. C'est un théâtre géré par une association qui bénéficie de subventions essentiellement de la ville de Colombes. Les comédiens qui ont joué cette pièce viennent du théâtre de la Renaissance de Paris. Si ils viennent de Paris pour venir à Colombes, c'est pour rendre accessible cette pièce à un autre public que celui de Paris et voir un autre public pour eux également. Les places sont toutes au même prix, ce qui montre aussi que c'est pour rendre accessible aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une place à Paris ou de haute catégorie. Cette pièce est principalement en français, mais on aperçoit des passages anglophones pour donner un effet de réel et montrer que les immigrés parlent de différentes langues.
Effectivement, la pièce suit le parcours d'un migrant, Issa, un jeune homme érythréen retrouvé inconscient dans la jungle de Calais. Lorsqu'il se réveille, il est totalement amnésique. Il ne sait plus qui il est, d'où il vient, ni comment il s'est retrouvé là. Seul son passeport, qu'il découvre sur lui, semble être une piste pour reconstruire son passé et retrouver des repères. Perdu dans un pays qui ne lui appartient pas encore, il croise la route de plusieurs personnages qui, eux aussi, sont immigrés. Ses compagnons, aux origines et aux histoires variées, vont l'aider dans sa quête de reconstruction, tout en poursuivant eux-mêmes leurs propres objectifs. Ensemble, ils vont tenter de s'intégrer dans des administrations françaises et dans des camps de migrants, où chaque décision peut avoir une conséquence.
Cette pièce a été écrite par Alexis Michalik, qui est un dramaturge, metteur en scène, un acteur et un réalisateur français. À 40 ans, c'est une figure importante du théâtre en France, grâce à son style particulier, dynamique et mouvementé. Ces pièces sont connues pour leur rythme rapide et intense, leur transition fluide et leur mise en scène immersive et originale. Son approche, inspirée du cinéma et des séries, rend le théâtre accessible et captivant pour un large public. Avec Passeport, Michalik explore une nouvelle facette de son art. Cette pièce plonge le spectateur dans une intrigue pleine de rebondissements, fidèle à son style vif et narratif. On a pu apercevoir dans cette pièce les changements de décor rapides et fluides de Alexis Michalik. On a pu voir également, par exemple, un écran qui servait de décor, mais qui était aussi une partie de l'histoire, quand il y avait des échanges de SMS qui étaient projetés. Comme dans ses autres œuvres, il joue avec les époques et les destins croisés, avec des histoires parallèles qui offrent une expérience immersive où chaque détail compte. Il a été récompensé par plusieurs Molières. Il continue d'innover et de repousser les limites du théâtre. Il a aussi adopté certaines de ses pièces au cinéma comme une histoire d'amour. Son influence sur la scène contemporaine est évidente, ce qui fait de lui un créateur incontournable du spectacle vivant.
La pièce aborde avec sensibilité et humanité la question migratoire, un sujet d'actualité délicat. Alexis Michalik veut montrer une vision différente du migrant en illustrant ses espoirs et ses difficultés. Il pousse le spectateur à réfléchir sur les conditions humaines que peut vivre un migrant au-delà des stéréotypes migratoires. Ces stéréotypes sont définis par différentes idéologies. Donc une idéologie, concrètement, c'est un système prédéfini par des idées et de croyances propres à une époque, à une société ou une classe. Cela mène à des stéréotypes. En effet, dans la presse, on nous présente des faits divers, de la violence. On a l'impression que le migrant, c'est un groupe prédéfini, alors que dans la pièce, ils s'entraident, tout en formant une famille et en essayant de s'intégrer dans la société française. En faisant cette pièce, l'auteur cherche à changer l'image initiale que les gens peuvent avoir envers les migrants.
Merci à toutes. La suite arrive sur Des Jeunes au théâtre.
À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
Nous nous retrouvons pour une autre interview, cette fois-ci sur les codes vestimentaires au théâtre réalisé par Julien et Paul.
Ok, alors bonjour, aujourd'hui nous allons parler du code vestimentaire au théâtre. Alors bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui pour discuter du code vestimentaire au théâtre. Pour commencer, est-il vraiment nécessaire de respecter un code vestimentaire spécifique pour aller au théâtre ?
Pas nécessairement, aujourd'hui le théâtre est de plus en plus accessible et les codes vestimentaires stricts sont moins imposés qu'avant. Cela dit, tout dépend du type de spectacle et du lieu. Par exemple, pour une grande première dans un théâtre prestigieux, une tenue élégante est souvent attendue, tandis que pour des représentations dans des lieux plus modernes ou alternatifs, une tenue décontractée peut suffire.
Ok. Alors, quelles sont les grandes règles vestimentaires pour une soirée au théâtre traditionnel ?
Dans les théâtres traditionnels, comme l'Odéon à Paris ou d'autres grandes institutions, il est conseillé de porter une tenue formelle pour les hommes, un costume sombre avec des chemises, avec une chemise et parfois une cravate ou un nœud de papillon est idéal. Pour les femmes, une robe élégante ou un ensemble habillé est souvent de mise.
Ok. Julien, est-ce que tu t'es déjà fait, c'est déjà arrivé de se faire refuser d'un théâtre ?
Oui, cela m'est déjà arrivé au théâtre de l'Odéon à Paris, qui est un grand théâtre parisien. Ils m'ont refusé car j'avais un jogging et tous les autres spectateurs étaient très bien habillés. J'étais gêné de me faire recaler devant tout le monde à cause de ça maintenant. Je mets un jean dès que je vais au théâtre.
Ok. Julien, est-ce que tu t'es senti en décalage parce que tu étais le seul de la classe à être en jean et les autres étaient habillés comme au lycée en jogging ?
Oui, je me suis senti en décalage car j'étais le seul de ma classe en jean, mais ça allait car il y a plein de personnes du théâtre qui étaient en jean.
Ok, d'accord. Alors, pour conclure, que diriez-vous à quelqu'un qui s'inquiète de ne pas être habillé comme il faut pour le théâtre ?
Je lui dirais de ne pas trop s'en faire. L'essentiel est de venir avec une tenue propre et soignée en fonction du type de théâtre et de la représentation. Mais surtout, le plus important, c'est de profiter du spectacle et de l'expérience théâtrale.
Merci pour ces conseils pratiques.
Merci à vous les garçons pour vos conseils. La suite arrive sur Des Jeunes au théâtre.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Et on continue tout en interview sur la perception du public des élèves de première. Présenté par Marouane, Elliot, Eliès et Hamza.
Merci Nour, bonjour, on est avec Eliès, Hamza et Elliot et on va discuter sur votre expérience. Première question, est-ce que vous allez souvent au théâtre et pourquoi ?
Bah moi, personnellement, je ne vais pas du tout au théâtre parce que ça ne m'attire pas.
Non, je ne vais pas souvent au théâtre parce que c'est pas une activité qui me captive forcément, donc j'y prête pas attention.
Bah moi non plus, j'y vais presque jamais parce que je suis pas trop intéressé par le théâtre.
Ok, ok. Deuxième question, comment le public a réagi à votre présence au théâtre ?
Bah moi, il y a une dame plutôt âgée qui m'a interpellé en me demandant qu'est-ce que je faisais au théâtre et du coup je lui ai juste dit qu'on était en sortie.
La majorité se demandait ce qu'on faisait ici, ils étaient choqués de voir des gens comme nous. Donc des jeunes, mais il ne faut pas généraliser, il y avait des gens très accueillants.
C'est vrai, je suis d'accord avec toi.
Moi, il y a des gens du public qui ont réagi différemment. Certains, ils nous ont regardé bizarrement et d'autres qui ont été très accueillants.
Ok. Comment vous avez fait pour ne pas faire attention au regard des autres ?
Bah, moi, je n'ai pas fait attention au regard des autres parce que je trouve qu'on est tout aussi légitime que être au théâtre.
Personnellement, je les ai ignorés parce que ce genre de jugement ne m'atteint pas.
Moi, j'ai fait comme Eliès, je n'ai pas prêté attention à leur comportement.
Est-ce que vous avez eu des bons échanges avec le public ?
Bah, moi, j'ai eu que des échanges positifs et bienveillants avec le public.
Pas spécialement parce que je n'ai pas eu d'échange avec le public, que je n'avais pas envie d'avoir d'interaction avec eux, à part pour des problèmes de place qui ont été réglés sans problème.
Moi, je n'ai pas eu d'interaction avec le public.
Est-ce que ça vous a donné envie d'y retourner ?
Ça ne m'a pas donné envie d'y retourner forcément, mais ça m'a familiarisé avec le théâtre.
Oui et non, parce qu'avant je ne m'intéressais pas au théâtre, mais maintenant j'ai découvert que ça peut être intéressant d'y retourner, mais d'un côté je n'ai pas envie d'y retourner car j'ai un sentiment de ne pas être accueilli comme tout le monde.
Moi oui et non, parce qu'il y en a qui réagissaient mal dans le public et je n'avais pas l'impression d'être le bienvenu, alors que certaines autres personnes elles ont été assez accueillantes et ça m'a quand même donné envie d'y retourner.
Bah, merci d'avoir répondu à mes questions, en espérant que des personnes changeront de mentalité.
De rien.
À vous, Nour.
Merci beaucoup les garçons d'avoir pris le temps de nous donner votre avis sur ce sujet.
Y a pas de quoi, y a pas de quoi.
Et maintenant, c'est parti pour la pause musicale.
Hey, hey, c'est elle qui me faut, je dois la présenter à Yema. M'aimeras-tu quand je serai fauché comme à l'ancienne? Soit moi Elvira, soit moi Cardi, je serai ton off. C'est une chose qu'on ne dira pas pour peur de faire foirer les projets. C'est nous deux ou bien rien jusqu'à la fin. Y'a trop de jaloux, trop de requins dans le grand bain. C'est nous deux ou bien rien jusqu'à la fin. Hey, y'a trop de jaloux, trop de requins dans le grand bain. Bébé veut des marmots, avec je l'emmène à la mairie. Je veux le blé gay, plein de lambeaux, j'suis trop cramé sur Paris. Hey. Bébé dans la main gauche, j'ai le diamant que tu mérites. Regarde bien l'ombre et qui va changer ta Yves. Parce que ta vie sera probablement meilleure à mes côtés. Faut pas que tu doutes, dis-moi combien fois de zéro pour te doter. Et je te les donnerai. J'peux donner sans même sentir que j'ai donné. Moi j'ai charbonné pour éviter de bégayer. Et il me faut, j'dois la présenter à Yema. M'aimeras-tu quand je serai fauché comme à l'ancienne? Soit ma Elvira, soit ma Cardi, je serai ton off. C'est plein de choses qu'on dira pas par peur de faire foirer les projets. C'est nous deux ou bien rien jusqu'à la fin. Y'a trop de jaloux, trop de requins dans le grand bain. C'est nous deux ou bien rien jusqu'à la fin. Oh, y'a trop de jaloux, trop de requins dans le grand bain. Disparaître des soucis comme si j'étais Copperfield. Bébé, j'ai pris rendez-vous chez ton père pour lui demander la main de sa fille. Hey, on fait les choses dans les règles, mais faudra toujours qu'on s'explique. Ils parleront, ouais, ils nous veulent du mal, mais bon. Je m'en vais piquer ton cœur et tu sais que je suis trop précis. Tes principes et tes valeurs, tu fais partie de ma famille. Ouais. On fait les choses dans les règles, mais faudra toujours qu'on s'explique. Ils parleront, ils nous veulent du mal, mais bon. Je sais qu'ils parleront jusqu'à la gorge séchée. T'inquiète pas. Prends les coups, mais faudra bien t'accrocher. On peut s'en aller, se barrer, mais on va rester ici. On ne dépendra pas des autres pour continuer. C'est elle qui me faut, je dois la présenter à Yema. M'aimeras-tu quand je serai fauché comme à l'ancienne? Soit moi Elvira, soit moi Cardi, je serai ton off. C'est plein de choses qu'on ne dira pas pour peur de faire foirer les projets. C'est nous deux ou bien rien jusqu'à la fin. Y'a trop de jaloux, trop de requins dans le grand bain.
Bien d'écouter Grand Bain de Nino et d'Adju parce que ça nous tenait à cœur de vous faire découvrir ce grand classique du rap français. Et maintenant, on passe à la deuxième partie de l'émission avec l'association Singa.
À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur l'antenne de Radio Campus Paris. Je suis Wendy. Aujourd'hui, nous allons parler de Singa, qui est une association française ayant pour objectif l'intégration des personnes réfugiées et migrantes. L'association a pour vocation d'accompagner l'inclusion des nouveaux arrivants en favorisant les échanges et en apportant des solutions par la création d'entreprises. Cette organisation est à but non lucratif. Singa organise aussi des événements socioculturels avec de divers partenaires à Paris. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Emmanuelle Bourges, coordinatrice du programme d'incubation de l'association.
Bonjour Emmanuel Bourges, pouvez-vous nous expliquer votre fonction dans cette association ?
Moi, au sein de Singa, je coordonne les programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat qui vont de la sensibilisation à l'incubation. La sensibilisation, c'est d'aller vers les personnes qui arrivent en France et de leur parler de création d'activités pour leur dire que c'est une voie possible pour eux. Le programme de pré-incubation, on les accompagne à concrétiser leur idée. Enfin, ils arrivent avec une idée et on va faire en sorte que ça devienne un projet. Et le programme d'incubation, c'est pour les accompagner à lancer le projet. Une fois que l'idée est devenue le projet, ils lancent ensuite.
Pouvez-vous nous donner un exemple de projet d'incubation mis en place par Singa en ce moment ?
Là, on vient tout juste de commencer notre nouvelle promotion, mais donc on est vraiment au tout début. Mais sur la dernière promotion, on a par exemple Isaga qui a pour volonté d'ouvrir des cuisines partagées, notamment pour les personnes qui vivent dans des hôtels sociaux. C'est très compliqué de se nourrir parce qu'il n'y a pas d'endroit pour faire soi-même à manger. Et la nourriture qui est fournie en général, c'est de la nourriture qui n'est pas adaptée à leurs besoins. Et du coup, ça serait d'ouvrir des espaces de cuisine partagée pour qu'ils puissent aller faire à manger pour eux-mêmes avec des produits dont ils ont l'habitude de, qu'ils ont l'habitude de cuisiner.
Et combien de candidatures vous recevez par an ?
On reçoit à peu près entre 180 et 200 contacts entrants qui veulent lancer leur projet à différents stades. Donc c'est à peu près ça qu'on reçoit par an. Ouais.
Quel est le profil d'un candidat ?
Il y a vraiment tous les profils. Il y a des entrepreneurs déjà qui ont entrepris dans leur pays, qui ont lancé un projet et qui veulent essayer de le déployer en France. Il y a des personnes qui ont pas vécu le parcours de migration et qui ont vu des choses qui ne se sont pas bien passées, enfin où il y avait des petits problèmes ou des gros problèmes, et qui ont envie de résoudre ces problèmes, donc qui ont envie de lancer une initiative pour essayer de faire en sorte que le parcours se passe mieux. Il y a aussi, on accompagne aussi des personnes locales, donc soit des personnes françaises, soit des personnes qui sont là depuis longtemps et qui veulent lancer un projet en lien avec l'inclusion ou l'accueil. Donc il y a vraiment plein de profils différents.
Quels sont les critères pour la présélection ?
Sur le programme d'incubation, donc c'est celui qui dure 6 mois et qui accompagne à lancer le projet. Là, on va prendre des personnes qui ont déjà une bonne étude de marché, donc qui savent à peu près où ils veulent aller. Et on va prendre aussi des gens qui ont une idée de début de business model, donc qui savent à peu près comment ça va se passer, comment ils vont gagner de l'argent, comment ils vont en dépenser. Et sur des critères un peu plus techniques, nous on accompagne principalement des personnes nouvelles arrivantes. Nouveaux arrivants, pour nous, ça veut dire des gens qui sont là en France depuis pas si longtemps que ça. Et c'est pas tant une notion de temps ou pas, c'est plutôt une notion d'inclusion et de sentiment d'appartenance. Enfin, s'ils se sentent en capacité de développer par eux-mêmes leur projet, ils ont peut-être pas besoin de nous. Donc nous, on va plutôt accompagner des gens qui se sentent pas forcément en capacité de le faire par eux-mêmes. Et aussi des personnes locales quand elles ont un projet en lien avec l'intégration, l'immigration, l'accueil, l'inclusion.
Que fait qu'un projet soit retenu ?
Ça va surtout dépendre du porteur de projet ou de la porteuse de projet, de ce qu'elle a envie, enfin de la façon dont elle va le présenter. Parce que du coup, pour rentrer dans le programme d'incubation, il y a un jury de sélection. Donc les personnes doivent présenter leur projet devant un jury qui sont nos partenaires ou des gens en interne chez Singa. Et ça va surtout être la façon dont ils vont le présenter, la façon dont ils vont avoir préparé au regard des critères que j'ai dit juste avant. Donc s'ils respectent ces critères-là, déjà ils passent devant le jury. Et ensuite, ça va être motivation et impact du projet.
Combien de projets vous soutenez par an ?
En tout, dans tous nos programmes, on accompagne à peu près 100 de personnes par an.
Est-ce que vous assurez le suivi des projets que vous avez portés ou votre rôle se limite-t-il à les mettre en place ?
On les accompagne jusqu'à la création et après on a d'autres programmes de post-création, donc une fois qu'ils ont créé, on va les accompagner à affiner leur stratégie commerciale, à essayer de décrocher les premiers contrats. On va aussi les accompagner vers une stratégie de financement, donc aller voir les bonnes personnes pour être financées pour leur projet. Et après aussi, l'objectif, c'est qu'ils aillent dans d'autres incubateurs. Donc, les incubateurs, c'est les endroits où on accompagne les entreprises. Et qu'ils aillent dans d'autres incubateurs qui ne sont pas forcément spécialisés pour les personnes nouvelles arrivantes, mais plutôt qui sont pour tout le monde et qui puissent développer leurs projets avec d'autres gens qui viennent de complètement ailleurs.
Merci à vous d'avoir été avec nous. Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Merci à l'association Singa de s'être déplacée pour nous avoir fait part de leur activité pour accompagner les personnes nouvelles arrivées. Et on revient tout de suite après la seconde pause musicale.
Pour embellir nos vies, on a vendu la mort. Deux pilons, tout coffré sous la nappe. Le thème, c'est jamais compter sur un autre. Qu'il soit bon ou mauvais, on crache pas sur un mort. J'ai mal à la vie, mon négro. L'impression de parler dans le vide, j'suis dégoûté. Clamart ma ville, mon négro. Un 4-0 sans moins 8, toi tu connais. SDM de Paname, à mes frères enfermés, j'passe le salam. Toujours impliqué dans le salaire. AK, 4, 7, l'addition est salée. Kilo à revendre. Et là, pas mon gosse, mets de la drogue dans le ventre. Le prix veut un chrome sur un vin. Gun sur ta tombe, ferme les yeux, fais un vœu. La 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 la, embrouille si ça pète, ça tire de partout, on compte pas les morts. Mon bébé m'a quitté, mais elle reviendra si à v'là les loves. Midi en bas de la cité, le terrain débite sous le nez des porcs. Le gang a jamais, va te faire enculer si t'es pas des noms. C'est mon gun qui parle, moi j'ai pas les mots. C'est vos mères qui pleurent, non c'est pas les noms. Écoute l'instrument qui donne la mélodie. Mon tarpette fait danser, y'a qu'à l'élo. Mon
tapette fait danser l'ya calé. On tapette fait danser l'ya calé. On tapette fait danser l'ya calé. C'est vos mères qui pleurent dans ces palais. Je sens mon chocho 6-4-3-2. A force de te dire, j'espère que t'as pigé. J'amène ma vie, je suis passé aux aveux. Sourire mon cœur en face de l'OPG. Donner les miens, non jamais. Jaillir le gang, non jamais. Bébé veut son sac Chanel, c'est pas pour ça que je suis dans la tour. Je t'aurais pas calé si j'avais. Sans donner de nouvelles, j'ai filé. Entre moi et elle, y'avait même pas de feeling. Plus tard, j'aurais pas le temps pour eux. Pourtant, j'aurais Rolex et Patek filé. Yankee vient dans le bang. S'approche de la putain, ne fera pas de filet. Ah, y'a les portes. T'inquiète, c'est carré, j'ai tout mis dans le fiat. Embrouille si ça pète. Ça tire de partout, on compte pas les morts. Mon bébé m'a quitté, mais elle reviendra si avla les loves. Midi en bas de la cité. Le terrain débite sous le nez des portes. Le gang à jamais va te faire enculer si t'es pas des mots. C'est mon gun qui parle, moi j'ai pas les mots. C'est vos mères qui pleurent, non c'est pas les noms. Écoute l'instrument qui donne la mélodie.
On vient d'écouter Yaka Lelo de SDM.
À vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
On continue sur les questions migratoires avec une chronique sur les démarches administratives des migrants en France. Bienvenue Riane et Flavie.
Bonjour. Bonjour. Donc, bonjour à tous, je suis Flavie et aujourd'hui avec ma camarade Riane, nous allons vous parler de l'obtention de la demande d'asile en France.
Donc, bonjour à tous, donc, un réfugié est un homme qui a fui son pays par peur d'être persécuté par sa religion, son orientation sexuelle, ses opinions politiques et... son appartenance à un groupe social déterminé. Ce terme de réfugié existe depuis la Convention de Genève de 1951.
Mais quelle est la différence avec un migrant ?
Eh bien, la différence, c'est que les migrants sont eux des personnes qui vivent aussi hors de leur pays d'origine, mais de façon temporaire. Dans un autre pays, nous allons expliquer maintenant les étapes de la commande d'asile, de la demande d'asile en France.
Pour commencer, il faut faire une demande à la préfecture de la région où vous êtes installé.
Il faut attendre de recevoir une convocation au GUDA.
Le guichet unique des demandes d'asile. Puis, il faut faire une demande à l'OFPRA.
L'Office française des protections des réfugiés et apatrides. Toute demande dure dans un délai de 3 ou 10 jours au maximum.
Après, il faut obtenir une attestation de l'OFPRA. Ce document n'est valable qu'en France et peut être renouvelé pour une durée de 6 mois en attendant la décision de l'OFPRA. Vous avez 21 jours pour adresser votre demande à l'OFPRA.
Dans la pièce de théâtre Passeport que nous avons vue le jeudi 23 janvier, il y a un passage où Issa va raconter une histoire comme une sorte de grande orale. Il va raconter la traversée de la Méditerranée comme le font les migrants qui veulent atteindre l'Europe. C'est aussi une étape importante dans leur pièce, mais aussi dans leur demande d'asile, car cela permet de comprendre pourquoi un demandeur d'asile a besoin de venir s'installer en France et expliquer son parcours.
Je l'ai trouvée très bien jouée et très émouvante. C'est une réalité auquel nous ne sommes pas confrontés, donc très très dur à vivre. Également, les migrants ne veulent pas tous être réfugiés en France. Beaucoup veulent par exemple atteindre le Royaume-Uni. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de migrants qui attendent à Calais dans la jungle, pour par exemple rejoindre leur famille ou alors espérer une vie meilleure en trouvant un travail. Comme le cas par exemple dans la pièce Passeport, où un Syrien voulait atteindre également l'Angleterre pour rejoindre quelques membres de sa famille.
La demande d'asile est une multitude de démarches administratives qui peuvent prendre du temps. Dans la pièce, il y a bien fallu presque 4 ans à Issa d'obtenir sa demande d'asile. Déjà que nous sommes des Françaises de nationalité française et que nous vivons en France depuis notre naissance. Imaginons pour déjà que c'est difficile pour nous de comprendre. Et imaginons pour un réfugié qui ne connaît rien de la France et qui ne connaît pas la langue française d'attendre sa demande d'asile, ça doit être super dur pour lui et il doit avoir beaucoup d'obstacles et voilà.
Totalement. Merci de nous avoir écoutés, c'était Flavie et Riane.
Merci, au revoir.
Merci beaucoup les filles. Maintenant, place au débat sur Radio Campus Paris. J'accueille aujourd'hui nos invités Amy, Iba, Mourad, Fares et Hans. Chers invités, Aujourd'hui, la question est: comment le phénomène migratoire est-il perçu en France ?
Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, dans notre émission, nous nous intéressons à la perception du phénomène migratoire en France. Pour en débattre, nous recevons Fares, politicien du Parti Socialiste, qui prône une politique d'accueil plus solidaire. Amy, maire d'une ville dirigée par le RN, qui alerte sur les conséquences de l'immigration sur l'identité et l'économie locale. Hans, professeur de géographie, qui nous apportera des données et des définitions précises sur les flux migratoires. Ibra, migrante espagnole, venue partager son expérience et son intégration en France. Hans, voulez-vous bien nous éclairer sur ce sujet ?
La France n'accueille pas tant de migrants qu'elle le pense. En comparaison avec d'autres pays européens, en 2022, la France, l'Espagne et l'Italie accueillaient chacune environ 5 millions d'étrangers, notamment en grande partie dû à l'afflux d'Ukrainiens suite à l'invasion russe en février 2022.
Pour commencer, une question simple. Pourquoi la perception de l'immigration en France est-elle si souvent négative ?
Il y a une perception négative des migrants à cause de plusieurs facteurs. Par exemple, les médias peuvent transmettre une mauvaise image des immigrés. Cela peut influencer la perception et créer des stéréotypes dans la société sur les immigrés. Par exemple, certaines recherches montrent que 70% des reportages sur l'immigration concentrent des aspects négatifs des immigrés et ne montrent pas leurs aspects positifs.
Bah non, je ne suis pas du tout d'accord, c'est du n'importe quoi. Ils ne transmettent pas une image négative des immigrés, ils montrent simplement ce qui se passe vraiment. Si on parle souvent des problèmes liés à l'immigration, c'est parce qu'il y a effectivement des difficultés comme la sécurité, le manque de place dans les écoles ou les problèmes à s'intégrer.
Iba, en tant que migrante espagnole, avez-vous déjà ressenti une peur ou autre ?
Moi, personnellement, je n'ai pas eu des agressions, des problèmes avec la population française, car j'ai de la chance d'être européenne. Mais je connais des gens qui se font agresser sévèrement, car ils avaient d'autres origines ou racisés.
Revenons sur une idée souvent avancée. Les migrants veulent-ils réellement le travail des Français ?
On n'en peut plus de ces clichés. Les gens parlent sans connaître la réalité des choses. Par exemple, l'Organisation internationale du travail publie régulièrement des rapports sur le travail des immigrés et leur contribution positive à l'économie. Souvent, les immigrés occupent des emplois dans des secteurs où il y a une pénurie, où les Français ne veulent pas forcément y travailler. Par exemple, la construction, éboueurs, livreurs, etc., qui sont des services indispensables au bon déroulement de la société. Cela montre qu'ils jouent un rôle essentiel dans la fonction de l'économie et aide à répondre aux besoins du marché du travail.
Je ne suis pas d'accord avec ça. Les Français ont besoin de revaloriser leur travail. Même si les immigrés prennent certains emplois qui manquent de travailleurs, cela ne justifie pas une immigration trop importante et sans contrôle. De plus, le fait de dépendre des travailleurs immigrés vient d'une mauvaise politique économique qui n'a pas assez aidé à former et à trouver des emplois pour les Français.
Hans, qu'en dit les chiffres ?
Selon l'OCDE, les migrants apportent plus que ce qu'ils prennent. Les migrants jouent un rôle essentiel dans certains secteurs de l'économie française, notamment dans l'hôtellerie et la restauration, où ils occupent une part significative des emplois, en particulier en Île-de-France. Cette main-d'œuvre est souvent indispensable pour des postes exigeants que de nombreux travailleurs locaux hésitent à occuper. La contribution budgétaire nette des personnes étrangères en France est légèrement positive, représentant environ 1,02% du PIB.
Iba, migrante espagnole, racontez-nous votre expérience.
Je m'appelle Iba et je viens d'Espagne. Il y a quelques semaines, j'ai quitté Barcelone pour m'installer en France, afin de poursuivre mes études en communication. C'est une expérience excitante, mais aussi un vrai défi. La langue n'est pas une grande barrière pour moi, car j'ai étudié le français pendant plusieurs années.
Merci à vous d'avoir partagé vos opinions en espérant avoir éclairé les auditeurs. Je vous rends la parole.
Merci à nos invités pour ce débat intéressant grâce à leurs avis différents sur un sujet qui nous concerne tous. Et pour finir cette émission en beauté, nous allons donc accueillir Swan, Dan et Johan afin qu'ils nous présentent un dialogue fictif entre un père et son fils.
Je remercie Nour de m'avoir donné la parole. Nous avons imaginé un dialogue fictif entre un père et son fils à la sortie du spectacle Passeport.
Alors, qu'as-tu pensé de la pièce, fiston ?
Franchement, j'ai bien aimé. C'était vraiment bien joué, surtout les scènes qui montraient comment les migrants vivent et sont traités.
Bien joué, tu dis ? Moi, j'ai trouvé que ça t'exagérait un peu. On met toujours la faute sur les policiers, comme s'ils étaient les seuls responsables. Tu sais, ils font leur travail, et on ne peut pas laisser tout le monde entrer sans contrôle.
Peut-être, mais les policiers ne devraient pas humilier les migrants, leur faire peur. Ce sont des humains comme nous, papa. La paix se montrait leurs conditions de vie. Dormir dehors, sans nourriture, sans sécurité. Tu trouves pas ça inhumain ?
Bien sûr que c'est triste, mais il y a des lois, fiston. Les policiers n'inventent pas la loi, ils les appliquent. Si on accepte trop de migrants, comment fait-on pour gérer ça ? Les logements, les écoles, les hôpitaux. Cela ne suffirait pas pour tout le monde.
Je comprends, mais ce n'est pas une raison pour leur traiter mal. Il fuit la guerre, la misère ou même les persécutions. Tu imagines ce qu'il faut traverser pour tout laisser derrière soi ? Je trouve qu'on devrait les aider, hein, pas les rejeter.
Et toi ? Tu crois qu'on peut accueillir tout le monde ? On a déjà des problèmes ici, avec des gens qui n'ont pas de logement ou de travail. Si on ouvre trop les frontières, on n'aura pas les moyens de tout gérer. C'est pas réaliste.
Mais papa, ce n'est qu'une question de tout accepter ou pas. Il y a des moyens de mieux organiser l'accueil, de trouver les solutions pour mieux les intégrer. Juste les voir comme un problème ou les pointer du doigt, ça n'aide personne.
Peut-être. Mais la réalité est que c'est compliqué. Ce n'est pas aussi simple que dans une pièce de théâtre. Et parfois, on doit prendre des décisions difficiles pour protéger notre pays.
Je comprends. Mais il faudra au moins qu'on commence par les traiter avec dignité. On ne peut pas fermer les yeux sur leur souffrance, papa.
C'est vrai, ils ne méritent pas d'être maltraités. Mais on ne peut pas non plus tout résoudre, tu sais.
Peut-être pas tout, mais on peut au moins essayer de faire mieux.
Tu es jeune, tu vois les choses idéales. C'est bien, mais la réalité est bien plus complexe.
Peut-être, mais si on abandonne l'idée de faire mieux, alors on ne changera jamais.
C'est bien, fiston. On en reparlera.
Alors, merci à tous les deux. Peut-être que cette pièce peut faire réfléchir des personnes qui ont des avis négatifs sur les migrants et peut contribuer à faire évoluer le regard qu'on peut avoir sur les migrants.
Merci beaucoup, les garçons. Merci à nos chers auditeurs d'avoir suivi cette émission. Merci aux élèves et à nos professeurs d'Albert Camus d'avoir participé et s'être autant investis dans ce projet. Merci aussi au Théâtre de l'Avant-Scène et au studio de Radio Campus de nous avoir accueillis si chaleureusement et de nous avoir donné des conseils très avisés. En espérant que vous ayez passé un bon moment, à bientôt sur Radio Campus.